Bien, on va continuer notre petite série d'études dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre, quel chapitre? On a déjà oublié. Chapitre 3. D'accord. Chapitre 3 et on regarde les vers. On va ouvrir la Bible, on va lire encore ce chapitre, une partie de ce chapitre. Colossiens chapitre 3. Colossiens au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Colossiens 3, à partir du verset 1, jusqu'au verset. On va lire jusqu'au verset 10. Est-ce que Samuel, tu veux lire ça pour nous? Verset 1 jusqu'à 10. Colossiens chapitre 3 et du verset 1 jusqu'au verset 10.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Mais. Voilà, donc on avait considéré plusieurs choses dont, et nous étions arrivés sur ce point que Paul développe au verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Donc il y a des choses que nous devons mettre à mort dans nos membres, hein, nous-mêmes, avec l'aide de l'Esprit. Romains 8, verset 13 dit, qu'est-ce que ça dit? Si vous vivez selon la chair, quoi, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que nous faisons mourir les actions du corps. On avait considéré l'impureté, la débauche, l'impudicité, un peu les fois précédentes, et nous avions commencé sur la passion, à considérer le fait de faire mourir les passions. Alors, je vous ai fait des petites photocopies aujourd'hui, comme il y a grève. On a parfois plus de temps. Donc, je vous fais passer ça. Quelqu'un peut faire passer, tiens, tu peux faire, s'il te plaît. Avec un petit résumé de ce qu'on avait vu, plus ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste une feuille par personne. On peut faire d'autres s'il manque. Hein. Alors, on avait vu un peu ce que c'est que la passion, comment on définit la passion. Très rapidement, je mets ici ce que nous donne le dictionnaire biblique. Il dit que ça peut être traduit par désir, plaisir, convoitise, être le fait d'être passionné. Il y a ce sens-là. L'élan, l'impétuosité ou aussi l'entêtement. Donc c'est au début de votre papier. On attend un petit peu. Ça va? Bien. Donc tout ça, ce que j'ai surligné là un peu, je pense que sur votre papier c'est un peu surligné, c'est ce qu'on peut trouver comme sens dans le mot passion. Dans le passage qu'on a à l'étude en Colossiens. Le mot qui est utilisé par Paul ici, on le retrouve dans Romains 1, 26, et puis aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 5. Dans Romains 1, 26, il dit « Car Dieu les a livrés à des passions infâmes », donc ça a un sens négatif. Et puis dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5, où il dit, de ne pas se livrer à une convoitise passionnée. Hein. C'est encore là quelque chose de négatif. La plupart du temps, le sens est négatif, c'est ce qu'on avait souligné. Et donc, on avait considéré les passions et leurs conséquences. Bon, j'ai mis des petits blancs ici, c'est juste pour vous permettre de remettre des choses un peu. Très rapidement, on avait vu que les passions combattent où ? Dans les membres, ou dans notre chair, dans les membres, vous pouvez mettre. Donc, combattre dans nos membres ici. Hein. Premier pointillé, les passions combattent dans nos membres. Jacques 4, 1 dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Ce n'est pas à l'extérieur de nous que ça combat, c'est à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on avait vu que la cause des conflits extérieurs, c'est quoi ? C'est la frustration, parce que vous vous rappelez de ça, hein, des passions intérieures. La frustration des passions intérieures. On avait considéré ce que Jacques dit au verset 2 aussi, dit qu'on vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Hein. On avait vu qu'il y a une espèce de frustration qui emmène parfois à des conflits ici extérieurs. Et puis aussi, on avait vu que les passions détournent, on avait mis ça comme ça, hein, les passions détournent les vertus spirituelles de leur but. Hein. Les passions détournent les vertus spirituelles de leur but. Trois exemples ici, dans Jacques 4, on voit le verset 3, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc on peut voir ici que quand la passion l'emporte, eh bien la prière est dévoyée. Elle est enlevée de... C'est comme ça qu'on dit ça, quoi. Hein. Dévoyer, vous comprenez le mot, hein, ça veut dire ça sort de la voie que ça doit avoir. Ça ne va pas dans le but, la direction qu'on doit avoir. C'est comme ça que ça s'écrit, je pense, ouais. J'espère. Si c'est pas ça, vous me corrigez. Hein. Donc c'est on sort de la voie, on la sort du chemin pour lequel elle est donnée, la prière. C'est ce que Jacques dit. Il dit, vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est pas le but, c'est pas la voie pour la prière, mais c'est ce que vous faites. Donc, tout ça parce que vous êtes animé par vos passions. Ensuite, en Philippiens 1, verset 15, 17, vous vous rappelez l'apôtre Paul, quand il est en prison à Rome, il écrit à l'église de Philippe et il parle de personnes qui prêchent l'évangile. Et il dit qu'il y en a qui prêchent l'évangile convenablement, puis il y en a d'autres qui ne le prêchent pas convenablement. Et il dit ceci, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Il dit, ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans ma chair. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela ? Parce que, bon, voilà, l'apôtre Paul est là, ils avaient de l'ambition. Hein. Et l'apôtre Paul, qui arrive à Rome, et ces gens avaient peut-être une certaine position. Donc, Paul arrive, ils se sentent peut-être un peu... pas délaissé, mais voilà, quelqu'un qui est important, qui est là, qui est connu dans le monde. Et donc, il y a une envie. Il dit qu'il prêche Christ par envie, envie de position, envie d'ambition. Et donc, cette passion qui les dévore les pousse à prêcher Christ, mais de manière à faire du tort à l'apôtre Paul. Okay. Donc, on voit que la prédication même aussi, elle peut être dévoyée quand la passion nous anime. Et puis troisièmement, un troisième exemple qu'on trouve dans 2 Timothée chapitre 3 verset 6 et 7, l'apôtre Paul parle de faux docteurs, il dit il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Encore là, il y a les passions qui les agitent, ces femmes-là, et puis il dit apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ici, la passion agite, Les passions agissent à l'intérieur, elles ont le désir de faire ceci, de faire cela, d'aller à droite, d'aller à gauche. Peut-être qu'elles cherchent à droite et à gauche à chaque fois à entendre des choses. Mais l'apôtre Paul dit ici, elles apprennent toujours, mais elles ne peuvent jamais arriver à la connaissance à cause de des passions qui agissent à l'intérieur. On peut dire ici que quand la passion l'emporte, eh bien, le progrès spirituel est stoppé. Il n'y a pas de progrès spirituel. On pourrait trouver d'autres exemples dans la Bible, mais où ces passions, ces désirs, quand ça nous dévore, quand on cherche simplement à satisfaire cela, eh bien, on ne fait pas de progrès spirituel. Et donc, toutes les vertus spirituelles sont détournées. Les passions détournent les vertus spirituelles. On avait commencé à regarder, deuxièmement, comment faire donc pour... donc, c'est derrière. Hein, comment faire donc pour faire mourir les passions? Comment faire mourir les passions? Le premier point qu'on avait vu, c'était quoi? La fuite, qui est toujours de rigueur. Donc, 2 Timothée 2, verset 22, dit « Fuis les passions ». Les passions, pour être combattues, elles doivent être abandonnées. On doit les fuir. Hein. Fuis les passions de la jeunesse. Alors, quelles sont les passions à fuir? On en avait donné quelques-unes, je crois, peut-être une, je pense. D'après le passage de 2 Timothée 2, 22, si on regarde le verset 23, on peut prendre ça, 2 Timothée 2, et regardons le verset 23. Il dit, repousse les discussions. Alors, il dit, fuis les passions de la jeunesse au verset 22, puis au verset 23, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et on avait souligné le fait que voici quelque chose qui vient des passions, la passion des discussions folles et inutiles. Hein. On avait considéré que c'est quelque chose que l'on aime souvent, hein, discuter, parler, avoir des débats un peu sur beaucoup de choses. Eh bien, Paul dit ici à Timothée, il dit ça ailleurs aussi, hein, qu'il doit apprendre à fuir tout ce qui est discussion folle, etc., parce que ça ne sert à rien. Quelque part, il dit même que ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, on en avait parlé la dernière fois. Autre chose qu'on pourrait rajouter, je l'ai mis ici sur le papier, comme passion, c'est l'orgueil. L'orgueil peut, c'est une espèce de passion. Les êtres humains sont orgueilleux, hein, et nous sommes passionnément, je crois même, orgueilleux. Et peut-être ça existe. L'apôtre Paul dit ça existe chez les jeunes, mais ça existe aussi chez les moins jeunes. Hein. On peut avoir parfois un excès de confiance qui nous amène à une espèce d'orgueil, plutôt l'orgueil nous pousse à avoir un excès de confiance en nous. Et on pense que l'on connaît les choses parfois sans les avoir approfondies. Et voilà, et tout ça vient à cause de l'orgueil. Je parlais une fois, il y a quelque temps, avec un parent, il disait « Je ne peux pas donner des conseils à mes enfants parce que ils disent, on sait faire, on va se débrouiller. Et on n'a pas besoin d'entendre ce que les autres ont à nous dire quand on est jeune. Mais parfois, quand on est plus âgé aussi, on est pareil, on est têtu et on pense savoir les choses. C'est une espèce d'orgueil et parfois, c'est une passion qui nous pousse à être comme ça, la passion de l'orgueil. L'apôtre Jean qualifie ce qui est dans le monde, comme vous rappelez, l'orgueil de la vie. D'accord ? Il dit n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Et qu'est-ce qui est dans le monde ? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, un peu. Et Paul lui-même dit, ça c'est l'apôtre Jean qui disait ça, mais dans l'épître dans 2 Timothée 2, au verset 14, hein, si vous regardez, si vous êtes dans 2 Timothée 2, au verset 14, il dit au verset 14, non, c'est pas au verset 14, non, je me suis trompé, verset de Timothée 2, non, peut-être pas là, peut-être c'est 4 alors, Non, j'ai pas. Alors, je vous lis, hein, il dit à la fin des temps sera marquée par l'orgueil. Hein. Il dit sache que dans les derniers temps, je cherche ça, je trouve. Chapitre 3. Voilà. Sache que dans les derniers temps, c'est 1 à 4, oui. C'est chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, et quoi ici? Enflés d'orgueil et aimant les plaisirs, une espèce de passion, aimant les plaisirs plus que Dieu. Il dit ici, voilà, le fait d'être enflé d'orgueil, c'est un signe de la fin des temps. Et on le ressent, hein, cet orgueil qui devient comme une passion. Donc ça, c'est une chose. Encore une autre passion qu'il faut fuir. Eh bien, je prends le fait qu'on est jeune et après je le traduis pour les moins jeunes, puisque l'apôtre Paul dit fuis les passions de la jeunesse. Alors, ça nous aide à savoir dans quel domaine il faut chercher. Mais la légèreté ou le manque de réflexion dans les décisions, parfois. Quand on est jeune, on peut être un peu, on peut être un peu, pas toujours le cas, mais on peut être un peu irréfléchi. Hein. On n'a pas le recul qu'il faut et on peut prendre des décisions un peu à l'emporte-pièce. Et c'est quelque chose qui peut aussi nous concerner ceux qui sont moins jeunes. Dans le monde, on favorise maintenant l'émotion plus que la réflexion. Voilà. Il faut sentir les choses. Hein. Vous regardez n'importe quoi aux informations, il y a du sport avec un grand record qui est battu, on dit l'émotion est à son comble. Mais vous regardez une tuerie quelque part, enfin vous regardez, c'est pas que vous regardez pas, mais vous entendez parler d'une tuerie quelque part, et l'expression des journalistes, c'est un petit village, l'émotion est à son comble dans le village. L'émotion est à son comble pour la tuerie, l'émotion est à son comble pour le record sportif, partout. Et c'est un appel parfois que l'on peut avoir à l'émotion. On montre des images pour que les gens soient dans l'émotion. On donne parfois très peu d'explications parce qu'on n'a pas besoin de la réflexion. Et c'est quelque chose dans lequel on peut tomber. On vit avec, de plus en plus avec les émotions. Tout est fait pour empêcher parfois de réfléchir, mais de réagir. Très vite, le plus vite possible. Et on est exposé à ça dans une société où on a des moyens de communication qui sont très rapides, hein. Des Facebook, des WhatsApp, toutes sortes de choses, où de manière instantanée, n'est-ce pas, on peut lancer quelque chose et puis avant qu'on se rattrape, on se rende compte qu'on avait mal fait, eh bien, il est trop tard. Tout ça parce qu'on veut aller vite avec légèreté, sans prendre le temps de réfléchir. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à plusieurs chaînes de télévision. Je pense que vous vous souvenez de ça. Lorsque il y a un homme qui est très recherché, qui a tué toute sa famille, j'oublie le nom, hein, et on ne sait même pas s'il effectivement, il était en fuite, on le recherchait, et il a semblé que quelqu'un l'ait retrouvé. On a retrouvé sa trace depuis un aéroport. Et le temps de dire ça, il y avait déjà, donc on a dit qu'il était dans une maison, le temps de le dire, il y avait déjà des caméras et des journalistes autour de cette maison, d'accord, pour être là, pour pouvoir donner l'information. Au bout de 24 heures, il s'est avéré que la personne n'avait rien à voir avec celle qui était recherchée. Donc imaginez la surprise de cette personne de voir toutes ces caméras, tout cela devant sa maison. Et les journalistes obligés de dire, ouais, on s'est précipité, c'est vrai, l'information n'a pas été. Parce qu'il faut être le premier à raconter le truc. Hein. Si on est le dernier, on perd. Donc, et on est un peu comme ça avec les moyens de communication. On discute, on parle vite, on dit quelque chose. On ne prend plus le temps de la réflexion. On est emporté par la passion, de la vitesse, de la légèreté et du manque de réflexion. On ne prend pas le temps de lire. La discipline de la lecture est trop difficile. Ça demande trop de temps, trop On préfère regarder un film que de lire. Quelqu'un m'a dit une fois, j'aime bien regarder le film Jésus, ça me donne une idée de... Mais ce n'est pas la même chose que de lire l'Évangile, de lire toute l'histoire, de lire la Bible. Parce que ça demande une discipline, ça demande du temps. Et c'est quelque chose que l'on n'aime pas. On est dans la société du va-vite. Hein? On veut la vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,7, il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toute chose. » Il dit « Comprends », ça veut dire tu prends le temps, tu t'assois, tu réfléchis, tu pries que Dieu te donne de l'intelligence pour comprendre ce que je te dis. Parce que ce que je te dis mérite que l'on réfléchisse. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on doit fuir aussi cette tentation de la vitesse, quoi, de la superficialité, le fait de dire « j'ai compris », le fait de refuser d'approfondir. On doit fuir la facilité, on doit prendre le temps lorsque cela est nécessaire. Et puis, j'ai mis aussi une quatrième chose aussi qu'on doit fuir aussi, hein, c'est parfois l'ambition et la richesse. Hein. On peut dire « bon, on ne recherche pas la richesse, mais... » de plus en plus dans nos sociétés, hein, on aime la mode, on aime le luxe, on aime la marque, on aime le standing. Hein. Quand on doit, n'est-ce pas, hein, quand les parents doivent acheter des vêtements pour les enfants, quand on va au magasin, on ne se laisse pas convaincre par n'importe quel tissu parfois, hein, même dans les milieux modestes. Hein, même dans les milieux modestes. C'est quelque chose qui... c'est-à-dire... L'ambition et la richesse, ce n'est pas forcément l'extrême ambition et l'extrême richesse. C'est cette attitude qui consiste à vivre selon, comme Jésus disait, hein, il dit ça dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, il dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. » D'accord ? Même si c'est une petite richesse, c'est une séduction quand même. C'est une passion qui nous empêche aussi de recevoir, qui peut nous empêcher de recevoir la parole de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit considérer aussi ces choses. Est-ce que je suis attiré par ma foi, ce qui brille peut-être d'une certaine manière, hein? Parfois, c'est arrivé que vous donniez à quelqu'un, vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai des vêtements d'enfants qui ont été mis, je prends un exemple, vêtements qui ont été mis une seule fois, de très bonne qualité, une seule fois. Et puis, une fois, on a fait quelque chose comme ça, on a entendu quelqu'un nous dire, moi je ne veux pas donner à mon enfant, qui est comme ça, je ne veux pas donner à mon enfant des vêtements qui viennent d'ailleurs, je veux acheter des vêtements pour mon enfant. Ouais. Bon, c'est une sorte de vivre selon le souci du siècle présent. On fait comme ça, on veut ces trucs, on veut acheter ces affaires, on ne veut pas quelque chose qui a déjà été utilisé ou mis une fois par quelqu'un. C'est pas une faute que de vouloir acheter quelque chose, mais c'est l'attitude, vous voyez, la pensée qui consiste à dire « je veux pas ça, je veux ça ». Okay. C'est une pensée qui montre que dans le fond, on est dans l'ambition et dans la recherche de quelque chose qui ressemble, à, même si c'est à notre niveau, qui ressemble aux soucis de ce siècle et à la séduction des richesses, qui peut étouffer l'humilité que Dieu veut faire croître en nous. Donc ça c'est pour les quelques passions, peut-être vous en avez d'autres, hein, qui vous viennent à l'esprit, mais on va avancer. Donc ça, c'était la fuite. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, je reprends le verset hein, de 2 Timothée 2,22 sur notre papier, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc deuxièmement, petit B ici, « Fuir les passions en faisant quoi ?» En recherchant les vertus spirituelles. J'ai appelé comme ça, c'est parce qu'il y a un autre mot qui est mieux. Hein. Fuir les passions en recherchant les vertus spirituelles. Ce n'est pas juste fuir, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne veux plus ça. C'est la fuite se fait en recherchant. C'est-à-dire on abandonne quelque chose en recherchant quelque chose d'autre. Sinon, on n'arrive pas à abandonner. Okay. Le mot rechercher ici, hein, c'est un mot qui est traduit parfois par persécuter. Vous imaginez, c'est pour vous donner l'idée un peu du mot. C'est courir, poursuivre, rechercher. C'est, parfois, ça peut vouloir dire faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite. Courir rapidement pour attraper une personne ou une chose. C'est ça, qui est le sens. Poursuivre, harceler, troubler, molester, persécuter. Métaphoriquement, ça peut avoir le sens de chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir quelque chose. C'est cette intensité-là qu'il faut mettre dans ce mot. Le fait de chercher sincèrement, vouloir acquérir, comme quelqu'un qui persécute. Hein, quand quelqu'un est après vous et après vous, comme ça, vous dites « Ah, il me persécute !» C'est pas possible. Hein. Comme dans la parabole dans la Bible de juge unique, hein, dans Luc 18, il dit « La femme l'importune tout le temps. Elle dit « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Il dit oh, « J'en peux plus, elle me casse la tête. Hein. » Donc, c'est ça le sens de chercher. C'est chercher jusqu'à ce que l'on atteigne ici. Donc, c'est l'intensité. Et qu'est-ce qu'il faut chercher ici? Il dit de rechercher la justice, la foi ou la fidélité, l'amour, la paix. Donc, la justice, c'est tout ce qui est droit, tout ce qui est intègre. Hein. Donc, je ne vais pas faire, je vais fuir les passions en recherchant ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est intègre, dans tout ce que je fais. Alors, je dois me poser la question de l'intégrité de ce que je fais. Hein. Si, par exemple, je télécharge illégalement des choses, je ne fais pas ce qui est droit. Donc, je ne recherche pas la justice. Hein. On peut prendre beaucoup d'autres domaines, on peut faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas droites. Après, bon, la foi ou la fidélité, ça, on comprend, hein, la fidélité en toute chose, la fidélité à Dieu, mais la fidélité aussi aux autres. La fidélité dans nos relations, quand on est marié, la fidélité envers le conjoint, la fidélité envers notre église, envers les frères et sœurs de notre église. Hein. Tout cela, c'est des choses qui sont importantes, on ne peut pas prendre le temps de développer. Et puis l'amour pour Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour pour les autres. Ça, c'est des choses que nous devons rechercher, l'apôtre Paul dit ici, avec une grande intensité. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Par exemple, Paul dit à Tite, il dit « Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. » Et donc, il dit ici, voilà, qu'il montre ici, c'est un exemple, je prends ici pour montrer à quel point il faut rechercher l'amour. On recherche l'amour pour nous-mêmes, mais on le recherche aussi pour les autres. On est soucieux d'apprendre aux autres à aimer. D'accord ? Soucieux d'apprendre aux autres à aimer. Et c'est dans Hébreux qu'il dit que nous devons nous exciter, je crois, à l'amour et aux bonnes œuvres. Et le mot exciter, c'est provoquer. On peut provoquer quelqu'un à l'irritation. Hébreux dit qu'on doit provoquer quelqu'un à l'amour. Donc, c'est comme ça que l'on recherche cet amour-là. Qu'est-ce que je peux faire pour exercer l'amour envers cette personne, mais pour l'aider aussi à progresser dans l'amour? C'est ça, la recherche. Et puis aussi, il y a la paix. Hein. La paix dans les relations. S'il est possible, l'apôtre Paul dit aux Romains, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne maintient pas de relations mauvaises exprès. On cherche la paix. On est des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Il y a ça dans les béatitudes. Parce que quoi, ils verront Dieu, c'est ça? Ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, merci. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est celui qui procure la paix. Il est le Dieu de paix qui est venu pour nous donner, par Jésus-Christ, la paix. Il est venu pour faire la paix avec nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, lorsque nous voulons fuir les passions, eh bien, rechercher la paix. Une manière de combattre les passions de nos membres, c'est toujours de chercher à développer la paix les uns avec les autres. Ça suppose que je ne suis pas en train de de colporter à celui-là. Tu as vu ce qu'un tel a fait, etc. Tu as vu ce que tu as fait. Ouais, il a dit ceci, il a dit cela. Parfois, on agit comme ça. Hein. On sème des ferments de division. Au contraire, on doit parfois étouffer des choses pour permettre à la paix de se propager. Pas étouffer dans le sens que l'on cache pour que... Vous comprenez bien ce que je veux dire. On ne propage pas dans le but de favoriser la paix dans les relations. On ne met pas de l'huile sur le feu. Voilà ce que je veux dire. On ne met pas de l'huile sur le feu. On ne vient pas attiser les choses. Hein? Un tel qui a parlé d'un tel, qui a parlé d'un autre, et puis après... Non, non. On essaye bibliquement de voir comment toutes les choses peuvent se régler dans le but de favoriser la paix. Que la paix de Christ, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, quoi, il dit ça, hein, même chapitre, hein, chapitre 3, au verset, si vous le trouvez avant moi, vous dites, c'est entre 10, 12, par là, non, non, ah, mais je ne suis pas dans Colossiens, c'est ça que je ne trouve pas. Colossiens 3, verset 15, c'est 15? Voilà, merci, 15. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été quoi? Appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc voilà comment il faut ça, c'est une vocation. La paix entre nous, c'est une vocation. Dieu nous appelle à cela. Et il veut que nous le recherchions. Et en le recherchant, nous fuyons les passions. Et puis, dernièrement, hein, je termine avec ça ici, le petit C, il y a aussi une communion à privilégier. La communion à privilégier. Qu'est-ce que Paul dit ici? Comment faut-il rechercher la paix? Il dit rechercher la paix, comment? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, il exhorte à une communion ici. Il ne dit pas rechercher la paix, vous, tout seul, dans votre petit coin. Il faut rechercher la paix, tout seul. Mais la paix, c'est toujours avec les autres, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est dans le relationnel. Mais il dit en plus qu'il faut le rechercher en recherchant, si j'ose dire, la communion avec d'autres chrétiens. Pas simplement d'autres chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit ici? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et notez bien ce que Paul dit ici. Hein. Il ne dit pas de rechercher la paix avec les autres jeunes. Hein, parce qu'il parlait au départ aux jeunes. Il ne dit pas de rechercher la paix avec ceux qui pensent comme nous. Il ne dit pas de rechercher la paix avec ceux qui viennent du même pays que nous, de la même origine ethnique. Hein. Il ne dit pas ces choses-là. Il dit rechercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. C'est-à-dire que le critère ici, ce n'est pas la culture, ce n'est pas les affinités, ce ne sont pas les affinités, ce n'est pas la langue, ce n'est pas les centres d'intérêt que l'on a, mais le critère, c'est l'intérêt qui est porté à Jésus-Christ. Je dois rechercher la compagnie de ceux qui aiment Jésus-Christ. Je dois rechercher la compagnie de ceux qui invoquent Jésus-Christ, qui le prient, de ceux dont il est évident que ce sont des personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent croître avec lui. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais il est évident que ces personnes, voilà, quand on va leur demander quelque chose, eh bien, elles vont essayer de nous conduire dans la parole de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est comme ça qu'on fuit. On fuit en cherchant ces choses-là, mais pas tout seul. On le recherche avec ceux qui peuvent nous aider. Parfois, quand on a besoin d'un conseil, on va chercher quelqu'un qu'on connaît bien et puis qui nous aime bien. On sait qu'il ne va pas nous dire trop de choses difficiles à supporter. Ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est quelqu'un qui invoque le Seigneur d'un cœur pur, quelqu'un qui aime le Seigneur. Même si cette personne doit me dire quelque chose qui va peut-être pas me faire plaisir, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre, mais je suis sûr que c'est ce que j'avais besoin, il va me dire ce que j'aurais besoin d'entendre, hein, parce qu'il va le faire selon la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit, tous chercher le Seigneur nous-mêmes, mais on doit chercher la communion de ceux qui invoquent le Seigneur. On doit se joindre à eux, et c'est pour ça que c'est important les rassemblements avec l'Église, hein, parce qu'on est avec ceux qui invoquent le Seigneur, on est ensemble, on grandit ensemble, on s'exhorte les uns les autres ensemble. Et il est, je dis ça souvent, mais il est triste d'entendre parfois des chrétiens qui disent, voilà, mon meilleur ami, c'est telle personne qui est complètement incroyante, qui ne va jamais lui donner un conseil biblique, etc. On peut avoir, c'est pas qu'on ne peut pas avoir des amis qui sont dans le monde. Mais la Bible nous dit ici qu'on a besoin de fuir les passions, et pour fuir les passions, eh bien, il faut rechercher le Seigneur avec, il faut rechercher la justice, la paix, l'amour, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Okay? Je parle avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps et qui me disait que oui, je suis en train de plus en plus d'éliminer sur mes WhatsApp des personnes parce que je sens que c'est des gens qui, c'est des amis d'enfance, mais c'est des gens qui peuvent nous. C'est pas qu'on veut pas, on peut prier pour ces personnes, mais la compagnie est quelque chose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la Bible. Et on a besoin de bonnes compagnies pour pouvoir progresser dans le Seigneur. Donc c'est quelque chose que l'on doit faire si on veut, si on veut croître dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est au sein de la communauté de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur que l'on doit rechercher les amitiés les plus intimes. Je crois que c'est ça que le texte nous dit ici. C'est au sein de ceux qui aiment le Seigneur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher nos amitiés. On doit être évangéliste auprès de ceux du dehors. On doit rechercher la compagnie de manière forte de ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, je vais m'arrêter là, ici. Donc, Paul dit ici, hein, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, hein, l'impureté, les mauvais désirs. Et les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique, à méditer sur ces choses et à les mettre, bien sûr, en pratique. On va prendre quelques sujets de prière.